Eh bien bonsoir, bienvenue dans Cinéscopie, le magazine du cinéma et de la musique de film, une émission proposée et animée par Laurent Craven et Chris Lucas. Nous sommes ensemble jusqu'aux alentours de 22h30, bien sûr pour vous parler de l'actualité du cinéma, des films à l'affiche, mais aussi du support physique, Blu-ray, DVD et de musique de film. Alors pour commencer cette émission, une petite rétrospective des Oscars qui ont eu lieu la nuit dernière avec... un grand gagnant et un grand perdant. Mais le grand gagnant, c'est Une bataille après l'autre, le film d'Anderson qui obtient l'Oscar du meilleur film, meilleur réalisateur. Et le grand perdant, eh bien, c'est le film avec Timothée Chalamet, Marty suprême, que nous avons beaucoup aimé. On vous en parlera peut-être tout à l'heure. Je ne sais pas si on vous en a déjà parlé. Si on en a déjà parlé, bon voilà. Mais c'est tellement bien que moi je voudrais en reparler. Finalement, non, si on en a déjà parlé. Marty suprême qu'on vous conseille parce que franchement c'est un excellent film et bah c'est dommage pour Timothée Chalamet qui n'est pas non plus reparti avec la statuette puisque c'est Michael B. Jordan qui l'emporte pour son double rôle, son rôle de frère jumeau dans Sinners. Alors Sinners d'ailleurs qui obtient l'Oscar de la meilleure musique de film. Ludwig Göransson encore récompensé cette année par l'Oscar de la meilleure musique de film. Dans les seconds rôles, meilleur acteur dans un second rôle, eh bien c'est Sean Penn. À vrai dire, je trouve un Oscar bien mérité pour son rôle dans Une bataille après l'autre. Et une meilleure actrice dans un second rôle, eh bien c'est Amy Madigan dans Évanoui, le film Évanoui, que alors on avait aimé mais sans plus, enfin en ce qui me concerne j'étais sorti de la projection assez mitigé justement avec cette dernière partie mettant en scène Amy Madigan, dernière partie que j'avais trouvé complètement grotesque et qui pour moi tuait complètement le film tel que le réalisateur l'avait construit dans toute sa première partie, donc j'étais un petit sujet. Cela dit, j'aime beaucoup Amy Madigan, mais bon, voilà, donc pourquoi pas pour Évanoui. Voilà, pour le film Frankenstein de Guillermo del Toro, il y a quand même quelques prix de consolation, puisque je crois qu'il a obtenu le prix des meilleurs costumes, des meilleurs décors également. Je crois qu'il a eu un autre Oscar. Il aurait pu obtenir l'Oscar de la meilleure photographie, parce que c'est vrai que la photo de ce Frankenstein est vraiment sublime, mais je pense non, c'est Sinners qui a obtenu l'Oscar de la meilleure photo. Bon, là aussi, Sinners aussi a des qualités techniques, esthétiques assez fantastiques, et je dois dire que je suis plutôt heureux d'ailleurs de trouver Sinners assez haut finalement dans les récompenses cette année, parce que après tout c'est un film de genre, un film fantastique, et il y avait bien longtemps finalement que ce type de film n'avait pas été récompensé, donc moi je trouve ça vraiment plutôt très très bien. Donc voilà, les deux vainqueurs, c'est ça, c'est Sinners de Michael Jordan et puis Ryan Coogler, et puis Une bataille après l'autre avec Leonardo DiCaprio. Ben voilà, Timothée Chalamet est reparti bredouille. Alors apparemment il y a une sorte de Chalamet bashing actuellement outre-Atlantique. Apparemment il aurait une attitude qui déplaît un peu au public, une attitude un peu arrogante. Ça un petit peu voilà. Alors ça, j'en sais rien, j'ai pas trop suivi l'affaire, mais bon, apparemment ça n'a pas joué en sa faveur. Et c'est vrai que le film était nommé dans tout plein de cérémonies, hein, mais il n'a rien gagné. Et puis l'Oscar, c'est important, l'Oscar du meilleur film étranger, je ne l'ai pas signalé, c'est Valeurs sentimentales de Joachim Trier qui obtient l'Oscar du meilleur film étranger. Alors, moi je ne l'ai pas vu, je ne sais pas si Laurent, tu as vu ce film, Valeurs sentimentales.
Oui, je l'ai vu, mais pour ma part, ça a été une véritable purge.
Bon. Tout est dit, je crois que... voilà.
Oui, non mais... sans embâge, hein, vraiment.
Oui, non mais écoute...
mais bon, après...
On donne notre avis.
Hein, oui, oui.
En toute impartialité, voilà. Bon, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire aussi, cette semaine, c'est l'apparition du nouveau numéro de Mad Movies. Qui nous propose une rétrospective du festival du film fantastique de Gérard Mer. Alors, je sais pas si on dit Gérard Mer ou Gérard Mer.
Gérard Mer, je crois.
On dit Gérard Mer, mais disons Gérard Mer. Voilà. Il y a également dans ce numéro, une interview du compositeur Akira Yamaoka. C'est le compositeur de la musique du film Silent Hill 2 de Christophe Gans. Voilà donc, un numéro tout à fait riche, comme d'habitude. Et puis, une rencontre également avec Joko Anwar, un cinéaste vraiment à suivre. Et puis voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est qu'ah oui, bah, s'il y a un film d'horreur qui débarque bientôt sur nos écrans, qui a d'ailleurs été présenté au festival de Gérard May. Ça s'appelle Dolly. Ça sort le 1er avril au cinéma. Et je vous en parle parce que ça s'annonce bien trash. Et puis, un acteur que j'aime bien dedans, c'est Sean William Scott. Un acteur qu'on voit pas assez, je trouve, et qui sera, un des personnages principaux de ce film qui s'annonce assez trash, mais avec de l'humour, comme de l'humour quand même très noir, hein, d'après les photos que j'ai sous les yeux. À signaler que dans le rôle de Dolly, eh bien, c'est un certain Max Lampaleur qui incarne le personnage. Bon, tout un programme. Bon, mon cher Laurent, comment vas-tu?
Mais ma foi, pas mal du tout. Hein,
ouais.
Et puis, je dirais que je suis plutôt heureux parce que ça va un petit peu, je dirais, bouillir dans la marmite du 7e art. Ah. Et à partir de la semaine prochaine, mercredi, il va y avoir une sorte de déferlante, je dirais, de quelques films.
Ouais.
On attend un petit peu quand même, voilà, que ça bouge un petit peu des sorties, même si, voilà, il y a un éclectisme, mais c'est vrai que ce qu'on, en tout cas, redoutait sur 2025, sans véritable locomotive, je dirais, eh bien, le début 2026, eh bien, reste sur un petit peu la lancée de 2025. Voilà.
Oui, c'est vrai que, bon, on peut quand même, bon, Marty Suprême, quand même, qui, je pense, va rester, dans, comme un des meilleurs films de l'année, mais c'est vrai que pour l'instant on reste un petit peu sur notre faim. Alors il y a quand même effectivement Les Rayons et les Ombres, qui était d'ailleurs diffusé hier après-midi au cinéma Le Lido en avant-première et qui sort officiellement ce mercredi. Mais on en reparlera bien sûr.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Film fleuve, hein, 3h15.
Oui. Mais bon, sur un sujet rarement débattu au cinéma, donc voilà, ça peut être une belle opportunité. On ne fait pas de promo, hein, c'est que tout simplement le sujet reste peut-être passionnant en tout cas.
Ouais.
Et donc, on va voir ce qu'en a fait Xavier Giannoli.
Tout à fait. On est impatients parce que c'est vrai qu'on a beaucoup aimé son précédent film, Les Illusions Perdues. Mais on sait qu'il est capable de faire des choses miraculeuses.
Voilà. Oui. Donc, alors, juste avant de débuter l'émission, triste nouvelle quand même, parce que ouais, nous avons appris la disparition d'un acteur français, humoriste,
ouais,
Bruno Salomon, vedette du petit écran, qui est forcément connu par donc cette série Fais pas ci, fais pas ça.
Ah oui, mais j'adorais cette série, je crois que j'ai regardé tous les épisodes. Le casting était formidable, hein,
ouais,
en plus.
Hein,
avec Bruno Salomon, formidable dans le rôle. Ils ont tous été très très bien choisis.
Et à côté de cela, bon, Bruno Salomon n'a pas œuvré que sur le petit écran, au cinéma aussi, avec l'inaltérable Bryce de Nice.
Et oui, c'est vrai.
Cherche fiancé, tout frais payé, la maison en full moon, les vacances du Cobu. Il y a aussi le carton, mais on l'a vu aussi dans Kaamelott. A priori, le secret d'Élise, ça c'est sur le petit écran. Donc voilà. Donc au passage.
On a été surpris quand même de cette annonce parce qu'il était quand même jeune, 55 ans, je crois.
Oui.
Et moi, j'ignorais hein, qu'il se battait apparemment contre une longue maladie, comme on dit.
Oui.
Et voilà. Donc, c'est bien d'en parler ce soir.
Et puis, au passage, quand même aussi, n'oublions pas qu'il a œuvré de façon très active au niveau du doublage, pardon.
Oui.
Et donc, voilà, c'est un artiste relativement complet.
Oui.
Et bien, après cela, on va démarrer l'émission avec quand même voilà, une petite pépite, hein, parce que c'est une partition assez peu connue du compositeur, avec deux acteurs extraordinaires, qui n'étaient autres que Sissy Spacek et Mel Gibson.
Ah oui, alors ça y est, je vois tout à fait. Et ça serait pas The River ?
Eh bien, si.
Un film de Marc Riddell, je crois.
Je crois, oui, tout à fait. Donc.
Ça date du début des années 80, ça, je crois.
Oui, c'est assez ancien. Bon, bah, faut dire qu'on est un petit peu ancien aussi. Hein.
Bientôt, ce seront les grands anciens. Ce rythme-là.
Donc, la partition date de 1984 et est signée par John Williams. Voilà.
Eh oui.
Très, très inspiré, en tout cas. Voilà, une musique peut-être beaucoup moins connue que, bien sûr, les grands classiques, les grands scores du compositeur.
Et notamment, il avait déjà travaillé avec Marc Riddell sur deux films, Les Cowboys et The Ravers.
Oui. Qui d'ailleurs sont d'excellentes partitions,
ah oui,
qu'on vous a déjà diffusées d'ailleurs, mais peut-être que ça serait l'opportunité, voilà, de...
On va faire une petite rétrospective finalement.
Oui, alors plusieurs rétrospectives, parce que John Williams...
Ah oui, là oui. C'est un continent, comme
voilà,
on dit.
Ouais. On va peut-être faire plusieurs volumes dans ces cas-là.
Ouais.
donc, on est parti pour en fait le thème d'ouverture, qui dure à peu près 4 minutes 30, et on se retrouve pour la première rubrique consacrée à la vidéo. Il y a des petites choses qui sortent quand même, ça se réveille aussi au niveau de la vidéo.
C'est vrai.
T'es peut-être pas convaincu, si.
Si, non, mais absolument. Ben voilà. Bon, on va retrouver donc Mel Gibson et Sissy Spacek dans ce film de Marc Riddell grâce à la musique de John Williams.
Allez, bon voyage. Rubrique vidéo.
Se lasse pas de cette musique de James Horner. C'est l'actualité, oui, du support physique, Blu-ray, DVD, Steelbook, et puis la parution cette semaine d'une très belle édition collector chez Carlotta du Giallo Torso, un film de Sergio Martino avec Suzy Kendall, qui est un des meilleurs gialli, devrais-je dire plutôt, réalisé par Sergio Martino, et un des meilleurs gialli tout court, d'ailleurs, de l'histoire des gialli. Un film qui préfigure aussi en même temps ce que seront les slashers, vous savez, ces films américains où une horde d'ados boutonneux est décimée par un affreux psychopathe, un peu Vendredi 13, tout ça. Mais Torso, voilà, c'est quand même une belle production, bien photographiée, et que je vous conseille dans cette édition collector, encore une fois, puisqu'en plus il y a des bonus assez intéressants, notamment une interview fleuve de Jean-François Roger, qui est un spécialiste du cinéma de genre, directeur de la programmation à la Cinémathèque française. Jean-François Roger, d'ailleurs, qui vient de faire paraître un ouvrage consacré au film policier italien, ça s'appelle Rosso Sangue, Rouge Sang, et c'est un film consacré au polar italien des années 70. Je vous conseille cet ouvrage Rosso Sangue consacré au Polizio Teschi. Mais en attendant, dans les bacs, c'est Torso. Oui, Torso qui est quand même assez intéressant et qui propose quelques scènes de meurtre assez gratinées, puisque le meurtrier essaie de se débarrasser de ses victimes avec une scie à main. Voilà, donc c'est tout un programme. Ouais, mais un très bon gialli, je vous conseille dans ce. Alors il y a deux éditions. Il y a l'édition collector proprement dite, qui est un boîtier en carton rigide avec ce qu'on appelle des mémorabilia, affiches, cartes postales, photos, livrées. Et puis sinon une édition simple. Et à chaque fois, le film vous est proposé en ultra haute définition. Et ça, c'est ce qui fait la différence, parce que le film avait déjà été édité par The Ecstasy of Film, d'ailleurs dans une très belle copie qui est restaurée, je crois, 2K, me semble-t-il. Mais bon, on peut se procurer cette édition Carlotta, parce que l'édition Ecstasy, elle est moins facile à se procurer. Alors, dans les bacs, dans les nouveautés, eh bien, nous avons le film de Kirill Srebrennikov, La disparition de Joseph Mengele. Je crois que, Laurent, vous en avez peut-être dit un mot. Je sais qu'il avait vu le film à l'époque, il l'avait aimé, mais il avait apporté quand même quelques bémols. Ce film raconte la cavale en Amérique du Sud du médecin d'Auschwitz, Joseph Mengele. Et c'est un biopic quand même assez fascinant, très bien réalisé, la photo est magnifique. Les acteurs principaux, Auguste Diehl et Maximilian Meyer-Breitenschneider. Le film vous est proposé en Blu-ray par Blackout. Malheureusement, il n'y a pas énormément de bonus. Il y a quand même une présentation du film par un spécialiste français. Et... par le réalisateur aussi, hein, bien sûr. Donc, au niveau technique, rien à dire, c'est le summum, une image éclatante, avec des contrastes affirmés. Donc, je peux vous conseiller quand même de découvrir ce film, tout de même déconseillé au moins de 12 ans. Un film relativement long d'ailleurs, puisqu'il dure 2h15, La disparition de Joseph Mengele. Alors maintenant, on va s'intéresser à Gaumont, parce que Gaumont nous propose en DVD des films qui sont un petit peu oubliés mais qui comme méritent franchement le détour. Alors tout d'abord, Oubliez Palerme, un film de Francesco Rosi réalisé en 1990 avec dans les rôles principaux James Belushi, Mimi Rogers et Joss Ekland. Un candidat à la mairie de New York, d'origine italienne, ayant axé sa campagne sur la lutte contre le trafic de drogue, part en voyage de noces en Sicile, où il se retrouve mêlé à une rixe. Ouais, je n'en raconte pas plus. Un très très beau film avec une musique signée Ennio Morricone. C'est Gaumont Vidéo qui vous propose ce film en DVD, un DVD simple, mais c'est une édition économique quand même. Le master est de très bonne qualité. Voilà, des fois les DVD quand même sont de bonne qualité. Hein. Il faut pas oublier que quand même le DVD est un support quand même intéressant, même si on est passé au Blu-ray. Et voilà, on a un beau master lumineux et surtout propre et bien défini. Donc vous avez une expérience de visionnage, tout à fait confortable sur ce film Oubliez Palerme, Dimenticare Palermo, titre original. Restons avec le cinéma italien, avec ce film, là aussi de Francesco Rosi, Le Christ s'est arrêté à Eboli. Film réalisé en 1979, qui avait obtenu en Italie le David di Donatello des meilleurs films et du meilleur réalisateur. Le film nous plonge dans l'Italie de 1935, un médecin et peintre juif, hostile au fascisme, est exilé dans un petit village rural. Le personnage principal est interprété par Gian Maria Volonté, qui livre une prestation formidable, comme d'habitude, et à ses côtés, Paolo Bonaccelli et Alain Cuny. Voilà, très beau film Francesco Rosi, édité là aussi en DVD simple, par Gaumont Vidéo, et en bonus, il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Mais par contre, le master est... il n'est pas terrible. C'est un peu dommage, mais il faut se procurer ce film, parce que c'est quand même un classique, un grand film, et puis surtout, c'est Gian Maria Volonté. C'est vrai qu'ils auraient pu faire des efforts hein, pour ce film. Mais enfin, il a le mérite d'exister en DVD. Alors, le film d'animation qui triomphe un peu partout, qui a déjà triomphé, mais enfin, qui a obtenu le Golden Globe du meilleur film d'animation, et hier soir, bien l'Oscar du meilleur film d'animation, c'est K-pop Demon Hunters. Un trio de chanteuses K-pop, chasseuses de démons, fait face à des créatures qui se font passer pour un boys band afin de voler les âmes de leurs fans. Alors c'est une production Netflix, donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que vous pouvez voir le film sur Netflix. Alors j'aime pas trop parler évidemment des plateformes, mais le film mérite quand même d'être vu. Tiens, puisque je parle de Netflix, alors quand même j'ai vu un film ce week-end. De temps en temps Netflix produit comme des il faut bien le dire, c'est dommage hein, parce qu'on aimerait bien les voir en salle, mais des films intéressants. Eh bien un film que vous pouvez découvrir sur Netflix ces jours-ci, c'est The War Machine, machine de guerre si vous voulez. Un film très efficace, réalisé par Patrick Hughes avec Alan Richson, je crois, c'est le nom de cet acteur, qui joue d'ailleurs le rôle de Richard dans la série. L'histoire d'un, voilà, d'un soldat qui souhaite devenir ranger, qui va subir des épreuves de sélection particulièrement ardues pour devenir ranger, et qui va devoir affronter un ennemi d'origine extraterrestre. Alors j'en dis pas plus, c'est vrai que ce film War Machine est un petit peu à la croisée de plusieurs genres, le film de guerre, le film de science-fiction, et de plusieurs influences cinématographiques. On pense beaucoup à Terminator, à Predator en particulier, et même à Alien. Bon voilà, bon, j'en dis pas plus, c'est très efficace, c'est quand même un film qui a été, je crois, budgété à 80 millions de dollars. Ça se voit, c'est... Et alors, vraiment le plus du film, c'est que ça a été tourné essentiellement en décor naturel. Ça se voit, la plupart des effets ont été tournés en plateau, donc c'est ce qu'on appelle du practical, vraiment. Et ça donne une charge assez réaliste à ce film. Et globalement, on passe un très bon moment. Alors, c'est vrai que le scénario, ça va pas très loin, c'est assez bourrin, mais franchement, c'est efficace. Voilà, donc je vous conseille ce film, The War Machine. Je voulais vous conseiller également un documentaire. Alors c'est un documentaire qui était sorti en salle à l'époque et qui ressort chez GM Éditions. C'est le Buena Vista Social Club, film réalisé par Wim Wenders, où l'on retrouve Ruben Gonzalez, Ibrahim Ferrer et Ray Cooder. Ce film raconte la réunion de vieux musiciens cubains et qui vont connaître, eh bien, la renommée internationale. Voilà, si vous aimez la musique cubaine, je crois que c'est un incontournable, eh bien, vous devez vous procurer ce Buena Vista Social Club chez GM Éditions. Voilà, donc c'est mon petit conseil de ce soir. Moi, j'aime bien mais je crois que Laurent aussi aime bien la musique cubaine. Et enfin, j'en terminerai avec Elephant, qui nous propose un coffret de 3 DVD consacré à Voltaire. Voltaire, ce diable d'homme, c'est la vie de l'écrivain philosophe François-Marie Arouet. Oui, Voltaire, interprété alors dans ce film, un téléfilm réalisé en 1978 par Claude Brulé, avec dans les rôles principaux Denis Manuel, Claude Dauphin et Guy Michel. Et on y aperçoit même d'ailleurs Nicole Garcia. C'est assez amusant. Donc un téléfilm de qualité française, comme on dit, mais vraiment très très réussi. Et avec en bonus, deux programmes assez intéressants. Tout d'abord, Les Voyageurs de l'Histoire. Vous vous rappelez de cette émission pédagogique diffusée sur Antenne 2 au début des années 80 et qui était animée par Jacques Martin en collaboration avec l'historien Alain Decaux. Et donc ces voyageurs de l'histoire, enfin ce numéro qui vous est présenté évidemment concerne la rencontre de 4 enfants avec Voltaire. Et puis autre bonus intéressant, un débat d'époque diffusé sur TF1 avec 2 spécialistes de l'écrivain. Donc je vous conseille franchement ce téléfilm Voltaire, ce diable d'homme, publié chez Elephant et qui est un des trésors, un des nombreux trésors de l'INA, parce que on aimerait que l'INA d'ailleurs nous propose davantage de programmes et surtout qu'il nous les restaure quand même. Ça serait quand même l'idéal,
parce que le propre de l'INA quand même, normalement, c'est sa mission.
Voilà, parce que...
Mais c'est vrai que l'INA a eu un peu de mal à proposer des programmes en haute définition, parce qu'à l'époque, en édition standard, définition standard, déjà, il faisait assez peu de restauration, de ce qui faisait qu'en fait, on avait des programmes qui étaient en qualité proche d'une VHS.
Voilà, et là, c'est pareil, le master qui nous est proposé de qualité quand même assez fluctuante, il faut bien le dire, mais bon, en tout cas, il mérite d'exister, ce programme. Ça fait partie des grands classiques de la télévision française. Voilà, je vous conseille ce Voltaire. Mais voilà, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire à l'INA, là? Non, c'est vrai que c'est dommage. Et puis, il y a tellement de programmes qu'on aimerait voir, revoir. Moi, par exemple, tu vois, ce que j'aimerais revoir, c'est Petit Déjeuner Compris. Tu te rappelles de cette mini-série avec Pierre Mondy, Marie-Christine Barrault, musique de Vladimir Cosma, d'ailleurs. C'était une très, très bonne série, ça. Voilà, j'aimerais bien la revoir oui. en édition restaurée,
alors,
bien sûr.
C'est vrai qu'on sort un petit peu du domaine du 7e art, mais oui, Lina mais... était aussi un des grands fervents de cette série... Le vendredi soir, je me rappelle.
Exactement.
Sur, alors je ne sais plus quelle chaîne, mais à l'époque.
Petit Déjeuner Compris, c'était la 2.
Mais qui était un hommage au théâtre, et au théâtre ce soir.
Ah oui.
Avec des pièces de boulevard avec Jacqueline Maillan.
Formidable.
Et donc là, Lina, je crois, avait sorti en son temps.
Il y a eu quelques pièces, oui.
Voilà, de quelques pièces qui avaient été éditées en DVD. Et là, c'est vraiment le calme très plat. Ouais. C'est un petit peu dommage parce qu'il y avait de grands acteurs, que ce soit des comédiens, des acteurs de théâtre, mais aussi de cinéma qui avaient qui étaient intervenus dans ce cadre-là.
Dans ce cadre, moi je crois que j'ai vu presque toutes ces pièces de théâtre. C'était un rendez-vous que je ne loupais pas. Et ça nous a permis de découvrir des acteurs comme Pierre Arditi, hein, qui commençait sa carrière, ou des acteurs plus confirmés comme Robert Hirsch, voilà, je me souviens.
Pierre Mondy.
Pierre Mondy, Maillan, Maria Paco, mais ouais. Et tant d'autres.
Henri Guibé.
Ben oui.
Et on peut en citer beaucoup comme ça.
Ah, on peut en citer énormément. Jean Le Poulain.
Oui, Jean Lefebvre aussi.
Oui, oui. Michel Roux.
Oui.
Bon, enfin... bon, nous avons les mêmes références, c'est ce que je vois.
Ouais, faut dire que c'était à l'époque vraiment les acteurs qui tenaient le haut du pavé au théâtre. Hein, donc forcément, c'était de l'incontournable. Hein, enfin, si vous vouliez passer un excellent moment dans le Vaudeville, bon, voilà, il n'y avait pas. Il n'y avait pas 50 troupes, on va dire.
C'était l'incontournable, quand même. Oui. Eh bien, Laurent, je me tourne vers toi pour l'actualité du Blu-ray, DVD et compagnie.
Oui, alors, la semaine dernière, je vous avais parlé d'un film d'Alex Joffé. Et donc, oui. On va faire une sorte de, de tiercé gagnant. Parce que, en fait, dans la nouvelle
si
salle.
Ah,
ben, gagnant, oui, bon. On peut le dire quand même dans le choix des films. Dans la nouvelle salve Coin de Mire, eh bien, nous allons pouvoir découvrir donc un film d'Alex Joffé, comme je le disais, musique signée Georges Auric, un film de 1955 avec Bernard Blier, Bourville, Giovanna Rally, Célé Hussard.
Ah, alors là, c'est quand même une distribution intéressante, hein, oui. Parce que Giovanna Rally, j'adore. Puis Bourville, bien sûr.
Et donc là, forcément, un film très attendu, parce qu'un film assez rare, semble-t-il, en tout cas en support physique, et qui raconte l'histoire qui se passe durant la campagne d'Italie, commandée par Bonaparte, et bien l'imprudence de deux hussards qui met en danger les habitants d'un petit village. Et donc, loin de toute gaudriole militaire, ce film méconnu, où on croise également George Wilson et Louis de Funès, eh bien questionne avec une apparente légèreté les conséquences funestes des conquêtes armées. Et donc, ce titre vient de sortir, il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il est sorti début mars, et du coup, eh bien, vous pourrez le découvrir donc en support DVD, mais aussi haute définition, avec bien sûr des bonus inédits et en haute définition. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que sur ce disque, il y a un hommage au compositeur Arthur Honegger. Et donc ça, ça c'est plutôt, en tout cas, une belle trouvaille. Et donc, je pense que je vais m'empresser de me procurer ce programme. Voilà.
Moi aussi, là,
Très belle restauration, on touche la perfection. Donc vraiment, un film à découvrir. Vous qui êtes passionné du patrimoine du cinéma français, eh bien, il faut vous procurer Les Hussards. C'est vraiment un excellent programme. Vous ne serez pas déçu. Alors, on reste dans la réalisation d'Alex Joffé, et cette fois-ci, eh bien, il y a un film de 1961 avec, là encore, Bourville, Pierrette Bruno, Armand Mestral, La musique est signée par un compositeur que j'affectionne particulièrement.
Tu n'es pas le seul.
Mais le problème, c'est que il y a très peu d'enregistrements, en tout cas, qui sont disponibles. C'est Georges Jean-Baris qui a signé la musique du Tracassin ou Les plaisirs de la ville. Et donc, c'est l'histoire de 24 heures dans la vie d'un Parisien débordé qui, pour tenir le coup, avale des pilules euphorisantes censées redonner la joie de vivre. Et donc, c'est une comédie peut-être un petit peu inoffensive, au sous-titre ironique, qui entraîne un Bourville débonnaire dans une succession de quiproquos avec son patron et l'élu de son cœur, jusqu'à une mémorable crise de nerfs causée par les fameuses pilules. Et donc, belle brochette de second rôle, parfois furtif, mais parmi lesquels Maria Pacôme, Rosie Vart, tout à l'heure on parlait de théâtre, ça fait partie aussi des actrices incontournables de l'époque, Mario David et aussi, n'oublions pas, Alice Sapritch.
Eh oui.
Et bien là, pour le coup, on a là encore des inédits et des entretiens avec Bourville et Pierrette Bruno. Voilà, c'est vraiment c'est assez riche les bonus chez Coin de Mire, donc vraiment c'est à découvrir. Et puis puisqu'on parle de Coin de Mire, un des derniers titres de cette salve, un film de 1957 signé Michel Boiron, c'est une comédie avec Charles Boyer, Henri Vidal et Brigitte Bardot. C'est le film Une Parisienne, qui raconte l'histoire d'une fille d'un président du conseil, une séduisante jeune femme qui cherche à punir son mari infidèle en fréquentant un prince. Donc, le film, certes, est loin d'être impérissable, mais Bébé, illumine cette comédie où on croise également quelques seconds rôles bien connus comme l'excellent Noël Roquevert. Voilà. Et donc, là encore, quelques bonus toujours en haute définition chez Coin de Mire, avec un retour jovial et argumenté sur la collaboration entre Brigitte Bardot et le réalisateur. Pardon. Donc, voilà, trois films qui viennent compléter Fortuna, qui est vraiment un excellent programme. Ceux qui connaissent pas ce film-là, il faut vraiment le découvrir. Donc voilà, la belle salve brochette de Coin de Mire, c'est vraiment parfait. Et,
oui.
Et un petit titre supplémentaire. Allez.
Film, on ne refuse rien.
Allez, film de Guy Lefranc avec Jean Brochard, Pierre Renoir, musique signée Paul Misraki, réalisé en 1951 donc par Guy Lefranc, mais je ne vous ai pas donné volontairement l'acteur principal, qui n'est autre que Louis Jouvet pour le film Knock.
Voilà. Ah oui.
Et donc là, c'est l'histoire de ce médecin cupide qui s'installe dans une petite ville de province où il ne tarde pas à faire de l'exercice de la médecine une activité florissante. Classique, inoxydable du cinéma français, au dialogue magnifiquement ciselé. Alors, on peut en citer quelques-uns, quelques répliques très connues de ce film. Tout bien portant est un malade qui s'ignore. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Et donc, bien sûr, avec la tonalité de Louis Jouvet, ce film est une excellente comédie à l'ironie mordante, qui dénonce d'ailleurs autant une conception singulière de la médecine que la crédulité de braves citoyens. Charisme intact de l'acteur qui avait déjà incarné le fameux docteur 18 ans plus tôt à l'écran et à plus de 1500 fois sur les planches. Donc voilà, le jeu était extrêmement rodé, et donc c'est là encore Coin de Mire qui termine en fait cette salve avec ce film Knock. Voilà, donc à mon avis c'est vraiment un tir dans le mille, hein, là pour le coup. Oui. Ce sont en plus que des inédits.
Ça va pas ranger mon portefeuille.
Hein. Ben non, mais bon, ils sont quand même assez attractifs au niveau des tarifs, parce que c'est vrai que c'est un petit peu malheureux, mais Quantmire a renoncé à ces fabuleux Mediabooks qui nous proposaient un certain temps dans des séries limitées avec là encore les publicités de l'époque, enfin vraiment la séance telle qu'elle était lorsque le film a été diffusé au cinéma. Donc franchement voilà, même si on n'a pas ces éditions là, peut-être qu'un jour ça reviendra, mais en tout cas les films existent en haute définition et ça c'est plutôt pas mal. On ne peut que féliciter l'éditeur français. Voilà. Et ça confirme que ni plus ni moins qu'à sa tête, il y a un passionné de cinéma. Et rien que le choix éditorial dans les titres eh bien, le prouve.
Oui. Mais écoute-moi, déjà, je pense que je vais tabler sur les Hussards, Fortuna et le Tracassin. Finalement, je vais tout prendre. Là, puis, voilà. Il nous embête, ce Laurent. Là. Il nous donne trop envie d'acheter des films.
Ah! Allez, on va changer un petit peu de registre.
Ah bon, parce qu'il y en a d'autres.
Ah ben oui. Ah ben là, on s'arrête pas en si bon chemin.
Ah ben non.
Alors, c'est un film beaucoup plus récent. Hein. Mmh. Il est sorti il y a pas très longtemps au cinéma. Mmh. On en a parlé un petit peu d'ailleurs. Ce film qui n'a pas reçu l'unanimité, je dirais, par entre autres son casting, qui est quand même assez étonnant pour retracer en fait la vie d'un couple célèbre au cinéma qui ne sont autres que Simone Signoret et Yves Montand, joués par Marina Foïs et Roch Dizem, film réalisé par Diane Curis, au passage quand même excellente musique de Philippe Sard. Voilà, je n'aurais rien dit, je vous ai rien dit, mais bon, si vous la trouvez, achetez-la les yeux fermés. C'est vraiment du pur bonheur. Et donc, ce film raconte les dernières années du couple Signoret-Montand, marqué par les blessures passées qui n'ont jamais véritablement cicatrisé. Et donc, on peut dire que le film, on va dire dans la forme, est plutôt réussi, je dirais. Par contre, c'est vrai qu'on a du mal à adhérer dans le choix des acteurs, et en particulier de Roch Dizem. Je n'ai rien contre lui, mais c'est vrai que de par, je dirais, le profil et aussi le ton qui, je pense, lui a été plus ou moins imposé, en essayant de plagier Montand, reste, à mon avis, plutôt une caricature, plus que, on va dire, quelque chose qui devait s'approcher au plus près d'une certaine réalité.
Peut-être que sur une scène de théâtre, tu vois, ça serait différent, je pense. Tu vois, serait plus acceptable.
Peut-être. Mais là, le choix est quand même très étonnant, très étonnant. Mmh. Et je pense que ce qui explique que le film, même s'il a marché, eh bien, n'aura peut-être pas la deuxième chance à la vidéo que l'on espère. Et d'ailleurs, je crois que l'éditeur y croit assez peu, qui est la Pan-Européenne, parce qu'elle ne sort qu'en DVD. Et il n'y aura pas de haute définition pour ce film.
Je pense que le film, tu vois, n'a pas marché peut-être. Il a plutôt pas trop mal marché compte tenu de ce que tu dis, mais
je pense qu'il a un succès d'estime, parce que une certaine génération s'est déplacée pour voilà.
Ouais, mais moi j'y serais bien allé, mais tu vois, c'est justement le casting dans la bande annonce, j'y croyais pas, et je suis pas allé voir le film, hein, tu vois, mais toi tu l'as vu, moi je l'ai pas vu, donc peut-être que effectivement il a perdu des spectateurs.
Alors moi, honnêtement, pour tout vous dire, la bande annonce m'emballait pas du tout. Et donc j'ai quand même fait le déplacement, et c'est vrai que c'est moins pire, je dirais, que ce qu'on peut voir dans la bande annonce, mais bon, ça reste quand même en deçà de ce qu'on pouvait attendre. C'est un petit peu dommage, parce que à côté côté de cela, c'est intéressant. C'est un petit peu d'ailleurs comme Nouvelle Vague, hein, le film. C'est qu'on retrouve un petit peu, le, je dirais, l'environnement des deux acteurs avec Trintignant, entre autres, le réalisateur de Police Python 357. Voilà. Et puis cette, je dirais, cette errance, hein, de Signoret, qui après, je dirais, une carrière phénoménale, eh bien, se retrouve un petit peu délaissé par le métier et cette, je dirais, cette retraite très mal vécue de part aussi, je dirais, la célébrité de Montand qui à l'international, qui bien sûr a émaillé la presse à scandale.
Alors il y a eu le livre La nostalgie n'est plus ce qu'elle était qui avait valu d'ailleurs à Simone Signoret de passer chez Pivot, je me souviens, dans Apostrophe à l'époque. Mais bon.
Donc voilà, donc si vous voulez vous replonger un petit peu dans l'ambiance et vous remémorer, je dirais, quelques épisodes de la vie de ces deux artistes, vous pouvez éventuellement flirter sur ce film de Diane Curis, Celui qui m'aimait, me semble-t-il. Je crois que
c'est moi qui t'aimais.
Ouais. Moi qui t'aimais. Ouais. Voilà, de Diane Curis. Et puis pour terminer, un film que pour le coup je n'ai pas vu. Je l'avoue, tu l'as peut-être vu, Chris. Allez. Film de Lucile Adzialiulovic.
C'est pas facile à dire. Je vois ce que c'est, mais je ne l'ai pas vu non plus.
Avec Clara Pacini, Auguste Dill et Marion Cotillard. C'est La Tour de Glace. Au passage, la musique est signée Olivier Messayenne, qui a reçu l'Ours d'argent de la meilleure contribution artistique au Festival de Berlin, qui raconte l'histoire d'une adolescente dans les années 70 sur un plateau de tournage, ayant fui le foyer où elle vit, et donc elle fait la rencontre d'une comédienne incarnant la Reine des Neiges, personnage féerique qui la fascine, et donc avec son style visuel affirmé et son rythme volontiers contemplatif, qui ne d'ailleurs conviendra peut-être pas forcément à tout à chacun, la Tour de Glace constitue une indéniable réussite picturale qui brouille les pistes entre rêve onirique, réalité et fiction filmée à travers la relation ambiguë qui se noue entre les deux protagonistes. C'est vrai que le récit se dilue un petit peu trop dans la recherche d'atmosphère, aussi énigmatique soit-elle. Donc c'est un générique de fin clairement hypnotique pour ce film distribué par Metropolitan. On attendait beaucoup en tout cas de cette réalisation, peut-être pour retrouver aussi Marion Cotillard qui avait, je dirais, un petit peu échoué dans certains projets un petit peu avant-gardistes. Elle ne déroge pas un petit peu à la règle. Le film n'est pas le chef-d'œuvre annoncé et c'est un petit peu dommage. Mais enfin, il existe. Il y a une édition DVD, Blu-ray et 4K qui est à votre disposition. Voilà, c'en est tout pour ce soir.
Merci Laurent, et on retiendra évidemment cette vague de films édités par Coin de Mire, qui est une belle salve de films avec Bourville, film réalisé par Alex Joffé. Je vous rappelle que ce week-end, c'est le printemps du cinéma, du 22 au 24 mars exactement. Les séances de cinéma sont à 5 euros la séance, donc ça vaut le coup d'aller au cinéma le week-end, mais ce week-end on en parlera, parce qu'en plus il y a de très bons films qui sortent ce mercredi, on en parlera tout à l'heure, mais évidemment avant cela nous vous parlerons des films que nous avons vus, et cette semaine nous en ferons la chronique dans quelques instants. Mais à 21h45, vous voyez, nous sommes en direct, c'est RTF, vous écoutez RTF, oui, votre radio, et c'est Cinéscopie, l'émission du cinéma, de la musique de film. À cette heure-ci, nous allons écouter une petite musique de film, je pense, une pause musicale. Je me tourne vers Laurent qui est aux manettes, qui a calé les platines. Que nous proposes-tu ?
Un petit peu de dance. Non, pas du tout.
Ah bon ? On peut s'attendre à tout. Hein.
Non.
Il est taquin quand même aujourd'hui.
Non, on va écouter. Alors, tu parlais d'une petite musique de film.
Oui.
Eh bien, ça sera plutôt une grande.
Oui. Bah, je sais pas si j'ai dit une petite, mais bon. Ouais. Bon, alors une grande musique de film.
Alors, une grande musique de film. Nous sommes en 1960. Le film est réalisé. C'est une adaptation hein, d'un film.
Alors attends, on va essayer de trouver. On va jouer avec toi.
Oui, ça va être assez simple, je pense.
D'accord, ouais.
C'est une adaptation d'un film japonais.
J'ai une idée.
De 1954.
Ouais.
D'Akira Kurosawa.
Oui, alors là, ça se précise.
Voilà. Et l'américain John Sturges en a fait un grand classique du western, incontournable. Alors, la distribution, je ne sais pas si on le dit d'ailleurs, hein, parce que Yul Brynner, Elie Wallach, Steve McQueen, Charles Bronson, Robert Vaughn, James Coburn, Horst Buchholz, Brad Dexter.
Ça fait 7 ça, non Attends, je suis en train de.
Je crois.
Quelque chose comme ça.
Hein. Je crois que ça fait 7.
Ah.
Et la musique est confiée à un compositeur assez peu connu, Elmer Bernstein.
Oui, Elmer Bernstein, à l'époque, quand même, il commence à être connu parce qu'il avait signé la musique des 10 commandements.
Ah oui, oui.
Quand même.
Oui, non. Ouais. Non, mais là, c'est sûr que, en tout cas, entre les 10 commandements et cette partition, c'est un festival. Voilà.
Ah, il s'agit bien sûr.
Des 7 mercenaires.
Eh oui.
Et donc, comme vous attendiez, on va dire, vous allez dire peut-être, on va encore écouter l'ouverture. Ben oui, vous allez écouter l'ouverture, mais pas que cela. Et en plus de ça, on vous a gâté parce que tout simplement, là, vous allez écouter vraiment la partition originale, l'enregistrement original. On s'excuse hein, pour les petites imperfections, mais c'est un disque qui était sorti en son temps dans les productions directement MGM. Et donc, franchement, c'est vraiment du pur bonheur. Et rien qu'à toucher, on va dire, ce CD, c'est vraiment magnifique. Vous avez des photos extraordinaires. Vraiment, c'est un pur joyau que d'avoir entre ses mains ce disque-là. Voilà. Hein, ouais. Je n'en dis pas plus. C'est pour les collectionneurs, hein, pour vraiment leur donner l'eau à la bouche.
Il y a des ondes là, qui émanent du CD. Là. Ouais.
Donc là, on est parti pour à peu près 8 minutes. Hein, de.
Oui, mais quand on aime, on ne compte pas.
On ne compte pas. Vous allez voir, ça va vite passer parce que cette partition est vraiment un pur bonheur. Allez, on écoute Elmer Bernstein pour les 7 mercenaires et on se retrouve juste après pour la sélection des films de la semaine. Les films de la semaine, ce soir.
Le rêve américain d'Anthony Marciano, Pillion de Harry Lytton, Il Maestro d'Andrea Di Stefano et enfin Alter Ego, le film de Nicolas Charlet et Bruno Lavène, avec Laurent Lafitte dans le rôle principal. Ouais, mais on va commencer par Alter Ego, une comédie avec Laurent Lafitte et Blanche Gardin dans les rôles principaux. Alors à savoir que Alter Ego était a priori à la base destiné au théâtre. C'était peut-être une pièce de théâtre. Et finalement, eh bien, Nicolas Charlet et Bruno Lavène en ont fait un film. Un film qui raconte quoi? Eh bien, l'histoire d'Alex dont vit dans un pavillon de banlieue avec sa femme qui est Blanche Gardin, et il est à moitié chauve, voilà, pour le décrire. Il est à moitié chauve, il est sapé de manière plutôt ringarde. En fait, c'est un type lambda, cadre dans une entreprise de logistique, et un jour, eh bien, de nouveaux voisins emménagent. Il se trouve que le voisin, ce nouveau voisin, lui ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est son sosie. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que personne d'autre ne voit la ressemblance. Voilà, donc il assiste à l'installation de son quasi-jumeau dans la maison d'à côté. Et bien sûr, eh bien, le nouveau venu le surpasse en tout point. Il a une superbe chevelure, une épouse sortie d'un podium de mannequin. Il faut dire qu'elle est interprétée par Olga Kurylenko. Moi, j'adore cette actrice, c'est vrai qu'elle est magnifique. Il se montre toujours charmant, brillant et comble du malheur. Il est venu bosser dans la même boîte que le héros, où il s'avère très compétent. Voilà, alors évidemment, la jalousie s'installe, bientôt c'est la paranoïa, et la paranoïa va pousser le personnage principal à s'engluer dans des situations où il va se ridiculiser lui-même. Et tout ça, eh bien, finalement, c'est assez drôle. C'est une comédie, on rit franchement. Il y a une dimension un peu dans le scénario Quentin Dupieux. On pourrait dire que c'est un scénario de Quentin Dupieux, mais en mieux écrit, à la limite. Hein, voilà. Alors, une petite facilité scénaristique quand même, il faut bien le dire. Et puis, le film a quand même... Voilà, oui, je porterai quelques bémols. C'est quand même assez plaisant. Voilà, c'est un film sympathique, avec un point de départ assez original, mais je trouve que le film met du temps à devenir méchant, c'est-à-dire que c'est vraiment quand on arrive presque sur la fin du film que ça devient trash, que ça devient vraiment total délire. Et donc moi j'aurais aimé finalement d'une certaine façon que cet alter ego soit un peu plus trash, peut-être à mi-parcours déjà, voilà, que ça monte un petit peu dans les tours, et c'est un petit peu dommage. Voilà, je trouve que ça aurait gagné à être un petit peu plus méchant. C'est un petit peu pour moi la limite de ce film, qui est quand même plutôt bien réalisé, photographié, avec une prestation de Laurent Lafitte vraiment formidable. C'est vrai que il arrive à composer ces deux personnages avec des nuances, voilà, et ça fonctionne bien. Voilà, donc je peux vous conseiller cet alter ego, voilà, qui va vous entraîner dans un univers proche de l'absurde, et avec un twist final assez sympathique. Voilà, je vais pas spoiler, mais il y a quand même un voilà. Alors ça traite évidemment du thème de la gémilité, du double, et qui est une thématique je pense qui est chère à leurs réalisateurs Nicolas et Bruno, et puisqu'ils l'avaient déjà un petit peu traité dans d'autres films. Voilà, donc je vous conseille ce film Alter Ego. Et puis on va maintenant, passer à une autre production, un autre film français, inspiré d'une histoire vraie, puisqu'il s'agit du rêve américain. Je me tourne vers Laurent parce que moi je n'ai pas vu le film, mais tu es allé le voir.
Oui.
Avec un duo d'acteurs qui fonctionne bien, je crois. Hein.
Oui, c'est Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi, qui joue le rôle en fait de deux mecs et de leur rêve bancal à l'histoire vraie de Jérémy Medjana, qui végète derrière le comptoir d'un vidéoclub à Amiens, et de Bouna Ndiaye, qui fait des ménages à l'aéroport d'Orly. Et donc, sans contact, sans argent, avec un anglais plus qu'approximatif, et rien ne les prédestine à devenir des agents qui comptent en NBA. Et donc, et pourtant, contre toute logique, ils décident de foncer. Et le film raconte cette obstination, les portes qui se ferment, les humiliations. Et l'amitié comme carburant de secours quand tout le reste fout le camp. Et c'est peut-être d'ailleurs ce pourquoi le film a eu un grand succès. C'est en fait un film qui reste assez authentique, je dirais, même dans le jeu des acteurs. On va dire que le réalisateur Marciano, qui déjoue quand même les clichés, eh bien, le rêve américain n'est pas, on va dire, une sorte de success story. C'est l'enjeu est de voir jusqu'où ces doux rêveurs vont aller. Au lieu de faire de la NBA un totem, eh bien, le film en montre les coulisses verrouillées, les codes impénétrables. Elle devient d'ailleurs un décor de comédie sociale, un monde où deux Français, partis de nulle part, doivent inventer leurs propres règles pour exister. Et donc Marciano y ajoute un paradoxe amusant, il choisit de filmer ce désenchantement à l'américaine. Et visuellement, c'est vrai que son film colle au fantasme de ces deux gamins. Ce sont des cadres larges qui capturent l'horizontalité des parkings, des salles de gym désertes, des couleurs rutilantes. Et donc c'est un tournage qui évolue entre la France et le Canada, qui crée une Amérique reconstituée, plus mentale d'ailleurs que documentaire. Et au fond, le cinéaste épouse une certaine grammaire d'un cinéma yankee, qui fait que voilà, on adhère quand même aux propos. Mmh. Mais c'est vrai que le film, pour ma part, n'est pas le chef-d'œuvre attendu, en tout cas. C'est pas que le film est mauvais. Et d'ailleurs, où je suis quand même un petit peu étonné, c'est Raphaël Quenard qui nous a toujours émerveillés. Et là, peut-être que c'est du fait qu'il y a quand même une production beaucoup plus imposante, hein, parce que c'est produit par Gaumont. Et donc là, on a l'impression qu'il est un petit peu étouffé, Raphaël Quenard. Il a du mal à vraiment s'exprimer à l'écran. Au contraire, d'ailleurs, Jean-Pascal Zadi, qui, lui, explose dans le film. Voilà. Moi, je suis resté un petit peu sur ma faim. Alors, ça et là, il y a des scènes un petit peu croustillantes. Franchement, c'est pas le chef-d'œuvre qu'on entend ça et là. Voilà. Mais bon, c'est une bonne comédie, assez sympatoche. Je n'irai pas plus loin, en fait.
Voilà. Mais nous allons rester dans le domaine du sport, Laurent, avec le film d'Andrea Di Stefano, Il Maestro, qui va nous entraîner dans l'univers du tennis. Le film se situe dans les années 80. Un ancien joueur de tennis devient l'entraîneur d'un jeune talent, timide, écrasé par les attentes de son père. Et ce joueur de tennis professionnel est incarné par un formidable comédien, Pier Francesco Favino, qu'on a vu dans Enzo de Romain Campillo, ou encore Nostalgia de Mario Martone, Le Traître de Marco Bellocchio, et puis également dans Dernière Nuit à Milan, du même Andrea Di Stefano d'ailleurs. Moi j'avais beaucoup aimé ce Dernière Nuit à Milan, et j'étais donc assez impatient de voir le nouveau film d'Andrea Di Stefano. Et alors, d'abord je n'ai pas été déçu, et je me suis rendu compte finalement en rétrospectivement avec ce film Il Maestro, qu'en fait Andrea Di Stefano, il est un peu nostalgique du cinéma italien et du cinéma de genre des années 70-80, parce que déjà Dernière Nuit à Milan, c'était un polar, mais filmé à la manière des polars italiens des années 70. D'ailleurs, même la musique, elle ressemblait à la musique que Stelvio Cipriani avait composée pour les Poliziotto, les Polizioteschi, pardon, des années 70. C'est un mélange de Cipriani, de Gobline également, donc c'était assez intéressant. Et le film était assez prenant. Et là, avec Il Maestro, eh bien, Andrea Di Stefano rend plutôt hommage à la comédie italienne des années 60-70. 90, parce que finalement, on pourrait se situer entre du Dino Risi et du Luigi Comencini. Voilà, Dino Risi pour le fanfaron, par exemple, parce que le film, c'est un road movie. Le Raoul Gatti, cette ancienne gloire du tennis italien, entraîne donc, devient le coach d'un jeune garçon qui, il a 13 ans dans le film, et pendant l'été, il va l'emmener, il va parcourir l'Italie de tournoi en tournoi, voilà, et donc le film va focaliser, va se centrer autour de ces deux personnages, cet ancien joueur dépressif et ce jeune homme écrasé vraiment par les attentes de son père, parce qu'effectivement il est soumis à un entraînement quotidien rigoureux, hein, son père veut en faire un véritable champion de tennis, du coup ce jeune homme ne vit que pour et par le tennis, il n'a pas d'amis, il est vraiment et donc ce sont ces, quelque part, ces deux solitudes qui se rencontrent et qui vont apprendre à vivre ensemble, à s'apprivoiser. Et c'est, ça m'a fait penser, alors, il faut prendre vraiment des pincettes avec ça, mais au couple formé par Trintignant et Vittorio Gassman dans Le Fanfaron. Il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire que il y a l'homme un peu plus mature et puis le plus jeune qui va, découvrir un certain nombre de choses. Donc, je veux pas trop spoiler le film, mais il y a un petit peu de ça. Et c'est vrai que le film, j'ai trouvé assez émouvant. Et en plus, il y a un marqueur temporel que je trouve vraiment formidable dans le film, c'est une actrice qui est dans le casting. Je savais pas qu'elle jouait dans le film, et quand j'ai vu son nom au générique, je me suis dit, mais c'est super, c'est une super idée. Et effectivement, je trouve que c'est une très très bonne idée. Il y a dans ce film Edwige Fenech. Edwige Fenech, ça faisait des années qu'on ne l'avait pas vu au cinéma, littéralement des dizaines d'années, enfin au moins, parce que je crois qu'elle avait dû jouer dans Hostel de Eli Ross. Et là, elle joue, alors elle fait une apparition, hein, elle a un petit rôle dans le film, mais vraiment, c'est parce qu'elle a tellement illuminé le cinéma populaire italien des années 70-80 que c'était elle est iconique. Edwige Fenech, elle a joué dans beaucoup de comédies sexy italiennes, elle a joué dans des giallo, et moi j'étais aux anges de la retrouver dans ce film. Alors, le film, c'est pas seulement un film sur le tennis, d'ailleurs c'est pas vraiment un film sur le tennis en réalité, hein. C'est comme un peu Marty Suprême, il y a le ping-pong, mais c'est pas le ping-pong. Il y a autre chose. Et là, vraiment, j'ai trouvé cette relation entre ce coach et ce jeune homme tout à fait touchante. Alors, il y a une relation père-fils qui s'établit effectivement. Ils vont partager des moments assez intimes, assez forts. Et c'est pas très original, mais c'est quand même bien fait. Voilà. Donc Andrea Di Stefano, je trouve que il réussit son film. Peut-être que, alors, c'est peut-être un petit peu long. Il dure un tout petit peu plus de 2 heures. J'aurais peut-être resserré un petit peu le film. Mais en l'état, le film est quand même très très bien photographié, merveilleusement interprété. La musique, elle est pas mal, mais bon, hein, je suis pas super fan de la musique, même si elle fait le taf à peu près comme, hein, voilà. Mais bon, c'est un petit bémol. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre, mais ça reste un très bon film que je vous conseille, Il Maestro, et pour découvrir un Pier Francesco Favino dans un rôle assez étonnant de joueur dépressif, bipolaire, et je vous conseille cette comédie. On pourrait dire une comédie douce amère, hein, c'est une expression qu'on connaît. Il y a un peu de ça effectivement dans ce Maestro, Il Maestro d'Andrea Di Stefano. Allez-y. Et puis alors, vraiment mention spéciale pour ce jeune acteur aussi, Tiziano Menichelli, qui est vraiment remarquable. Je crois que c'est son premier rôle à l'écran. Et en plus, voilà, il joue très très bien. Il est très beau. Voilà. C'est un film qui a beaucoup de charme. Franchement, allez voir ce Maestro. On va maintenant changer de registre, on peut le dire, avec un film assez étonnant réalisé par Harry Lytton. Ça s'appelle Pillion, et on y retrouve de façon assez surprenante d'ailleurs l'acteur Alexander Skarsgård. Laurent, tu as vu le film?
Oui, alors ce que je peux dire, c'est qu'en fait, on peut dire qu'en 1576, la Boétie discourait de la servitude volontaire. Et donc, quatre siècles plus tard, eh bien, le Britannique Harry Lytton illustre le concept dans un premier geste de réalisation particulièrement décomplexé. Il faut rendre à César, ou plutôt à l'écrivain Adam Mark Jones, celui qui est responsable de Box Hills en 2020, ce qui lui appartient. Et donc l'idée originale de cette histoire d'amour, pas comme les autres, entre Colin, dispensateur de contravention et choriste a cappella à ses heures perdues, et le chevalier en armure de cuir venu le sauver de la monotonie de sa vie de tanguy trentenaire. Et donc très vite, eh bien, comme l'asphalte défile sous les roues du destrier chromé de Ré, Pillion, qui en fait désigne, parce que en fait ça désigne une partie de la moto en fait.
Ah d'accord.
Pillion en fait c'est le siège arrière d'un deux roues. Voilà. Et donc un déséquilibre s'installe qui est matérialisé par l'injonction d'une dévotion ménagère, par un collier en forme de cadenas ou encore par des ébats sexuels façon prise de catch.
En effet.
C'est profondément malaisant, terriblement aussi grisant. Voilà. Et donc, d'abord au casting, parce que aux grands yeux innocents d'un Harry Melling, longtemps d'ailleurs associé à la frange grasse de l'horripilant cousin d'Harry Potter, s'oppose le gigantisme d'un Alexander Skarsgård, froid, implacable, vampirique, rappelant d'ailleurs les débuts du Norvégien dans Slumbrood. Mais il y a aussi Douglas Hodge et Leslie Sharp en parent poule, échantillon d'ailleurs d'une normalité relationnelle, hétéro, saine et immuable dans la santé et la maladie. Et pourtant, si le film fait mouche, c'est parce que dans cette étude de la soumission délibérée, de la toxicité revendiquée, eh bien le cinéaste se passe de commentaires, se gardant bien d'apposer en quelques prismes moraux sur la réalité parallèle de ces motards branchés domination. Et voilà le spectateur qui est livré, mais alors totalement à lui-même, je dirais, tâtonnant dans cette obscurité, forcé de se faire son propre avis. C'est brillant, je dirais, sur un plan réalisation et interprétation. C'est un dispositif cinématographique hors du commun. Moi, la seule question que je me pose, c'est comment ce long métrage a pu atterrir en salle sans se voir apposer en fait une interdiction.
Je crois qu'elle s'interdit au moins de 16 ans.
Oui, mais enfin, malgré tout, quand même, pour les scènes suggérées ou qu'on aperçoit quand même, je suis un petit peu dubitatif parce que bon, c'est une belle réussite. Hein. On voit assez peu de films, en tout cas aussi osés et décomplexés que celui-ci.
Voilà. Alors là,
dans ce genre d'histoire, en fait. Oui.
Ah oui. Ouais, tu donnes envie de découvrir ce Pillion, finalement. Bon, j'espère qu'il passe encore la semaine prochaine.
Alors, il passe encore, mais c'est vrai que la salle ne va pas rendre hommage totalement, je dirais, à la richesse visuelle du film, étant donné que ça sera vraiment un petit écran.
Oui, ça c'est vraiment dommage.
Hein. Oui.
Écoutez, donc, il faut vous précipiter demain. Allez-y, allez voir ce film avec Alexander Skarsgård.
Ah oui, il est vraiment étonnant. Hein.
Bon, c'est peut-être le film de la semaine, en tout cas pour toi.
Là, pour le coup, oui, dans la sélection des films que j'ai pu voir, ouais. Je pense que c'est celui qui sort du lot.
Eh bien, aujourd'hui, vous l'avez compris, nous vous recommandons en particulier Pillion d'Harry Lytton et Il Maestro d'Andrea Di Stefano. Alors, on a vu d'autres films, on a vu notamment Scarlett et l'Éternité, de Mamoru Hosoda. On vous en parlera peut-être la semaine prochaine. Ce qui me concerne d'ailleurs, une petite déception. Je n'ai pas été emballé plus que ça, mais je vous en parlerai un petit peu plus lundi prochain. Laurent, petite virgule musicale avant peut-être d'évoquer les films qui vont sortir ce mercredi 18 mars, alors avec je crois quand même des films dignes d'intérêt. Alors ça tombe bien parce que c'est le printemps printemps du cinéma. Oui. Et les places à 5 euros oui. hein, à partir du 22.
Alors, on a vu aussi Le Crime du troisième étage. Mais
ah oui, Le Crime du troisième, tu l'as vu aussi. Voilà,
on ne dira rien. Vous reviendrez la semaine prochaine, voilà, en deuxième séance.
Ouais, oui. Ah, ça, c'est du teaser, ça. Hein, formidable. Voilà, donc on parlera du Crime du troisième étage, de Scarlett et l'éternité, et entre autres, la semaine prochaine. Eh bien, petite pause musicale alors.
Oui. On reste dans le raffiné après Pillion.
Ouais. Vas-y.
dans la délicatesse.
Oui.
Pour un film de 1984 de Francis Giraud. Voilà.
Ah.
Une musique, une partition qui est restée longtemps inédite, en tout cas dans son intégralité. Mais c'est chose faite par nos confrères de Music Box. Je ne peux que les féliciter parce que bon, j'adore le compositeur, mais particulièrement aussi cette partition qui est vraiment une des meilleures aussi de Georges Delerue. Voilà. Le film s'intitule « Le bon plaisir ». Avec Catherine Deneuve, Jean-Louis Trintignant, Michel Serrault. C'est une adaptation d'un roman de Françoise Giroud, d'ailleurs, qui raconte l'histoire d'un homme ambitieux avec qui Claire Desprez a naguère eu une liaison et est devenue présidente de la République française. Et donc Claire se fait voler son sac à main, dans lequel elle gardait une lettre envoyée par cet amant. Et donc la lecture de cette lettre pourrait faire comprendre à un tiers qu'un enfant est né de cette liaison. Je ne parle pas de personnages existants ou qui ont existé.
C'est marrant parce que le film était tourné en 82-83. C'est marrant parce que, en fait, évidemment, on sait très bien. D'ailleurs, je crois que le roman a été publié aux éditions Mazarine. Hein,
oui.
Donc, je crois que... Mais alors, ça a été tourné, comme c'est fou, parce que ça a été tourné carrément à l'Élysée. Il y a des scènes qui ont été tournées à l'Élysée. Et quand on sait, effectivement, rétrospectivement, évidemment, l'histoire de François Mitterrand et de sa fille Mazarine, voilà, coïncidence, c'était peut-être pas tout à fait fortuite.
C'est clair.
Hein, voilà.
Et à savoir, quand même, on découvre quand même l'assistance de réalisation. Eh bien, un autre grand réalisateur qui n'est autre que Régis Varnier.
Ah, bah oui,
aux côtés de Francis Giraud.
Ah, bah écoute, je ne savais pas ça.
Allez, on écoute donc l'ouverture de cette partition qui dure à peu près 4 minutes. C'est du grand Delerue. Ça, par contre, je peux vous le confirmer. Et c'est vraiment à écouter pour ceux qui ne connaissent pas déjà Delerue et ceux qui le connaissent. Eh bien, c'est une de ses plus belles partitions. Allez, tout de suite, le bon plaisir.
C'était le thème principal du film, Le Bon Plaisir, avec ce très beau thème romantique, parfois un peu inquiet, parce que c'est une comédie, Le Bon Plaisir, mais qui se teinte de gravité. Il y a quand même des moments comme un petit peu plus dramatiques dans le film. Voilà, très beau film de Francis Giraud, adapté de Françoise Giroud, et avec cette musique sublime de Delerue. C'est l'époque d'ailleurs, Delerue est, je crois, est parti aux États-Unis déjà. Il est parti parce qu'il a trouvé des conditions de travail meilleures, hein, des budgets plus confortables. Et voilà, mais de temps à autre, il revenait en France pour travailler sur quelques projets. Alors, eh bien, mercredi, c'est le jour des sorties cinéma, et régulièrement, il y a des dizaines de sorties, mais je pense que cette fois-ci, c'est la même chose. Et puis, bon, il y a quand même de grosses sorties. Alors déjà, on vous l'a annoncé tout à l'heure, Les Rayons et les Ombres, le film de Xavier Giannoli avec Jean Dujardin, qui raconte une histoire vraie, celle de Jean Luchaire et de sa fille Corinne Luchaire, qui était actrice de cinéma, qui a fait une carrière au cinéma à la fin des années 30, qui, alors, une histoire vraie qui s'est finie de façon dramatique, puisqu'en 1946, Jean Luchaire a été fusillé. Quant à sa fille Corinne, en 1950, elle est décédée de la tuberculose. Elle avait un tempérament maladif, elle était malade, et finalement, c'est ce qui l'a emporté en 1950. Donc ça, un film qui va embrasser cette période qu'on appelait la période de la collaboration.
Oui, tout à fait.
Ouais, et un film fleuve de 3h15.
Oui.
Mais bon. Ça a l'air passionnant.
Oui.
Ça s'annonce passionnant.
Ah oui, là vraiment, ça sera certainement un des films que nous irons voir.
L'incontournable de la semaine.
Oui, entre autres. Donc il y a 16 sorties.
Ah oui, quand même.
Une quinzaine de sorties. C'est un peu la vitesse de croisière. Et donc, on pourra voir à partir de mercredi Las Corrientes de Milagros Mumentaler. Voilà.
Oui, écoute, pourquoi pas,
hein, oui,
on va découvrir.
La danse des renards de Valérie Carnoy, David de Brent Daves, et Phil Cunningham.
Oui. C'est un dessin animé qui est un conducteur de David et Goliath.
Vous avez vu, je pense, la bande-annonce. Hein,
oui.
Ça s'annonce, une grosse, assez grosse production. Dernière soirée de Nicolas Dazol. La gifle de Frédéric Ambalek. La guerre des prix d'Anthony Dechaux. Où on retrouve d'ailleurs le grand retour d'Olivier Gourmet, d'ailleurs, dans ce film-là.
Et Anna Girardot, que j'aime beaucoup.
Oui, moi aussi. Non, mais c'est vrai, en plus, une très grande actrice. Le film, en tout cas, paraît assez alléchant, parce que j'ai l'impression que c'est un peu la nostalgie, puis c'est une comédie peut-être réussie avec François Damiens, c'est Police Flash 80. De Jean-Baptiste Sorel.
Oui, ça a l'air d'être une parodie de film. Alors, c'est un rond-plan dans les années 80, je pense que ça va nous faire sourire.
Oui. Le pouvoir de l'insignifiant d'Oscar Flamion. Précieuse de Fanny Guyard-Norel. Le prince, l'ogre et la fourmi d'Edouard Nazaroff. Là, on n'a pas grand-chose sur ces films. Projet dernière chance de Phil Lord, et Chris Miller.
Donc ça, c'est un film de science-fiction avec Ryan Gosling,
qui s'annonce peut-être une bonne surprise.
Oui. C'est assez intriguant, effectivement. Donc à surveiller, en effet.
Nous avons aussi Reminders of Him de Vanessa Caswell.
Une rom-com, je pense.
Oui, tout à fait. Scène de nuit, de Philippe Matzenbauer et de Marcio Reclan.
On va dire que c'est ça.
C'est pas facile. Le sifflet de Corin Hardy.
Alors ça, c'est peut-être intéressant. C'est un film d'horreur. Alors le sifflet, effectivement, c'est un sifflet aztèque. Et quand on siffle dedans, ça provoque l'arrivée de démons qui veulent évidemment votre mort. Voilà. Et Corin Hardy, on s'en souvient parce que il a quand même réalisé. Alors La Nonne. c'était pas terrible, il faut bien le dire, mais surtout quelques épisodes de cette formidable série Gangs of London. Oui. Ça, c'était vraiment très bien.
Ouais. Et pour terminer, Silentium de Nidal Chata.
Très bien, bon, bah, il y a quand même pas mal de choses. Hein. Film d'horreur, film de science-fiction, film historique avec Xavier Giannoli.
Alors, on le reprécise à chaque fois, hein, ce sont les sorties nationales. Ouais. À savoir que nous n'aurons pas sur Limoges les 16 sorties, c'est clair. Mais ouais. Bon, voilà, en tout cas, une grande partie des films seront très certainement proposés.
Parfait, bien merci Laurent, et puis on peut en profiter avec ce printemps du cinéma qui arrive avec des places à tarifs réduits. Donc, il est 22h32 à la pendule de RTF. Nous allons donc vous souhaiter une excellente fin de soirée à l'écoute des programmes de la station, une excellente semaine dans les salles obscures notamment, avec ces films voilà, que nous sommes très impatients de découvrir sur grand écran, bien sûr. Donc Laurent, je te souhaite également, comme à nos éditeurs et nos éditrices, une excellente semaine.
Oui, profitez donc de ce programme éclectique et avec des films, à mon avis, assez alléchants qui viennent compléter l'offre de cette semaine. Donc, je pense que vous allez avoir l'embarras du choix. Mais bon, avec le printemps du cinéma, tout est permis.
Il faut en profiter.
Et donc, voilà, allez faire donc des réserves de 7e art dans les sables obscurs, surtout bon, la météo s'y prête, hein, vraisemblablement.
Surtout ce week-end d'ailleurs.
Voilà, donc un petit peu d'humidité, donc vous serez à l'abri et au sec, en salle, et donc on s'y retrouvera très certainement. Allez, on vous souhaite une excellente semaine et à lundi prochain.
Ciao.
Salut.